à mes auditeurs auditrices à l'écoute de Radio Saint-Louis, soyez les bienvenus. Nous nous retrouvons avec notre archevêque, Monseigneur David Macaire, pour le mot de l'évêque.
Monseigneur, à nouveau bonjour pour ce mot de l'évêque qui succède donc à la Pentecôte et au 22 mai et qui précède, nous sommes samedi, hein, toujours pour le samedi et le dimanche de la Sainte Trinité. Et bonne fête d'ailleurs à la paroisse de Trinité. Monseigneur, nous avons déjà parlé dans la question du dimanche de la Pentecôte que vous avez vécue avec le jubilé d'or du renouveau charismatique. Le lundi, c'était d'ailleurs la fête de cette nouvelle fête de la Bienheureuse Marie, mère de l'Église, instituée par le pape François. Vous avez parlé de l'importance de Marie dans l'Église naissante. Elle est là au milieu des apôtres. Elle est un peu la mère qui les rassure, même si Jésus est parti. Elle est là, elle, au milieu d'eux. Et puis ensuite, donc, le 22 mai, on y est revenu. Et ensuite, eh bien, c'est les habituelles, charges qui pèsent sur vous avec la gestion des problèmes. Et puis, ces confirmations qui font votre grande joie, puisque aujourd'hui même, vous allez partir pour Saint-Pierre dans cette magnifique basilique et vous allez retrouver les enfants du Nord-Caraïbe.
Oui. Parler de la Vierge Marie, des problèmes. Les problèmes, oui, alors il y en a toujours, il y en a tout le temps. Et donc il faut, avant il y avait le rythme médiatique, ensuite le rythme du monde et le rythme de l'Église. Alors maintenant il faut ajouter le rythme des réseaux, qui est immédiat et violent pour les personnes. Et pour les institutions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, pour les médecins, les avocats, les notaires en particulier, tout de suite, les choses, ça a exacerbé les passions, les tensions. Par contre, le service de la vérité imprime de prendre son temps.
C'est ça.
Et dans plusieurs cas là, ces derniers temps, les réseaux s'emballent, etc. La question qui se pose pour des chrétiens, c'est ce que vit l'Église ne peut pas être au rythme, ce serait trahir Dieu, et il vaut mieux obéir à Dieu qu'au réseau. Hein. Sincèrement, ce que dit l'Église ne peut pas être lié à des choses qui sont directement, immédiatement, dans l'immédiat, etc. Donc il faut prendre son temps, des choses demandent... Et bon, notamment l'évêque doit le faire, ça c'est évident, les pasteurs aussi, les responsables, les communicants, mais je crois que les fidèles chrétiens aussi.
Bien sûr, la patience aussi, de la recherche de la vérité.
Il y a des familles entières qui sont divisées, mais explosées aujourd'hui, des gens qui ne se parlent plus, parce qu'il y a eu un problème sur un groupe WhatsApp, sur un message TikTok, etc., des groupes d'amis qui sont... et voir des crimes qui sont commis à cause de cela. Et donc, on est entré dans un monde, et donc, à chaque fois qu'il y a une évolution technologique dans l'histoire, la grande histoire de l'humanité, eh bien, il y a un temps d'adaptation. Et donc, ce qui se dit sur les réseaux, avec toutes sortes d'interprétations, de machins, etc., au bout d'un moment, nous devons, nous chrétiens, au risque de trahir le Christ lui-même, je veux dire, peut toujours céder à toutes les tentations. Déjà dans les médias, ça a toujours été le cas, mais on a franchi un degré supplémentaire dans le mauvais sens, si j'ose dire, avec les réseaux, tout se dit et le contraire de ce qui se dit. Et donc, ça donne encore plus de sérénité pour régler les problèmes, pour faire la vérité, pour dire les choses. Justement, l'Église joue la carte. Alors, l'Église peut être officielle. J'aurais tellement aimé que les fidèles aussi. Est-ce qu'on est encore fidèles? Est-ce qu'on est encore frères et sœurs si nous sommes avant tout sur les réseaux? Est-ce que c'est sur les réseaux que l'on fait l'Église, que l'on fait la communauté? En fait, qui est mon frère? Comme dit Jésus, qui est ton prochain? Qui est ton prochain? Et c'est une question de vie éternelle, de mort éternelle là-dessus. Hein. Il faut vraiment que nous réfléchissions là-dessus, comme toutes les communautés, alors je pense aux prêtres, du coup, comme tous les corps aussi, le prêtre et le clergé. C'est le cas aussi de tel médecin, etc.
Professeurs.
Des bons dieux de l'école, de l'université, de temps, de réel milieu sportif, n'en parlons pas. Les médias eux-mêmes sont touchés par cela. entre la réalité du média et le réseau qui va plus vite, le média, le réseau qui devance, qui, et puis qui déforme forcément la réalité, puisqu'il va beaucoup plus vite que... Voilà. Bon, donc il nous faut prendre le temps, et moi je suis déterminé, de toute façon je n'ai pas le choix, d'abord il y a des règles dans l'Église, deuxièmement, y a la vérité du Christ nous oblige à ne pas céder à un dictat qui n'est pas celui de Dieu, en tout cas.
Je pense à la Vierge Marie, puisqu'on en parlait, oui. Lors de la fête de la Mère de l'Église. Quand elle ne comprend pas, elle garde ces choses dans son cœur. Et la vérité va jaillir de l'intérieur.
Alors, on peut ne pas comprendre, on a le droit dans l'Église. C'est comme par hasard, c'est un petit, aussi mon enseignement de l'Église, de la catéchèse la dernière fois.
Oui.
Il est parfaitement légitime dans l'Église d'avoir des choses à dire, les fidèles, etc. Bien sûr, même les non-fidèles peuvent s'interroger, peuvent, etc. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, on ne saurait le faire en condamnant et en jugeant sans savoir. Ça, c'est dangereux pour tout le monde, mais c'est dangereux surtout pour celui qui pose ce genre d'acte. Mais en Martinique, malheureusement, c'est devenu chez nous, et depuis longtemps, une déformation très forte. Et là, pour le coup, je parlais de guérison tout à l'heure, il faut vraiment que notre culture échappe à cela, parce qu'on est dans une île, parce que ça fait mal, et parce que finalement, ça sert en réalité les choses les plus... les milieux, les idéologies, les réalités les plus sombres. Puisque finalement, lorsque on accuse quelqu'un de telle ou telle chose, eh bien, je pense par exemple au cas d'abus dans les familles, par exemple, dans une famille. Si on accuse quelqu'un à tort, ça veut dire que le lendemain, quand quelqu'un fait quelque chose de vrai, cette personne est protégée. Voyez. Je veux dire, hier c'était à tort, donc on ne sait pas. Voyez. Donc il faut faire très attention aux accusations. On l'a vu avec l'affaire Outreau, par exemple.
Bien sûr.
Une affaire Outreau, le fait d'avoir accusé à tort des gens et qui ont même fait de la prison, dont un prêtre. Mais du coup, ça, à la fin, ça protège finalement.
C'est ça, ça invalide un peu les autres discours et les autres situations tragiques.
D'après vous, pourquoi j'ai parlé depuis trois mots de l'évêque, le résumé de l'homélie de la messe chrismale, du terme de confiance.
Bien sûr.
Du terme de confiance, est-ce qu'on fait confiance? Et la réponse, c'est... et l'ennemi a tout intérêt à nous faire perdre confiance les uns les autres. Du coup, on réagit avec extrêmement, quand on n'a pas confiance, on réagit avec violence. Il faut choisir entre la confiance et la violence. Voilà. Et dans l'Église, nous devons choisir la confiance.
Le fidèle, c'est justement celui... Fidèle, c'est celui qui a la foi et la confiance. S'il n'a plus la confiance, il n'est plus fidèle.
Et voilà, c'est ça. S'il n'y a plus la confiance, s'il n'y a plus la confiance, il n'y a plus de fidélité. Ouais. Et s'il n'y a plus de fidélité, si tu n'as pas la foi. Voilà. Alors, donc, c'est vrai pour beaucoup, beaucoup de réalités dans l'Église. Ça change beaucoup. J'en parlais dernièrement avec des notaires, j'en parlais avec des avocats, j'en parlais avec des médecins, etc. Toutes ces professions qui sont au service du public. Les professeurs, vous parlez aussi des professeurs, etc. Et il y a une confiance qui a été complètement modifiée. C'est-à-dire qu'avant, on faisait confiance à son médecin, on faisait confiance au professeur, à l'instituteur, on faisait confiance à les hommes politiques et les femmes politiques, n'en parlons pas. Bon, globalement, on faisait confiance. Alors certains, évidemment, ont certainement fait des erreurs et pourquoi pas des crimes, des prêtres, posaient des actes répréhensibles. C'est, bon. Mais du coup, c'est pas tellement pour ça d'ailleurs que tous ces métiers, qui sont considérés comme des notables, des gens, ont perdu leur notoriété, c'est-à-dire la confiance qu'on avait en eux. C'est parce qu'ils ont été remplacés par justement les réseaux, par des choses... voilà. Et donc, on l'a vu dans plusieurs cas ces derniers temps où on va faire plus confiance au réseau parce que le réseau crée une réalité.
Mais Monseigneur, regardez, on va faire confiance à l'intelligence artificielle parce qu'on lui aura enlevé justement cette dimension affective qui est la part de l'humanité. Et donc là, on va préférer une raison froide à tout ce que nous avons, nous aussi, de vie, de passion et d'amour. On va supprimer l'amour pour que la froide raison puisse prendre toute la place.
Voilà, alors je ne sais pas, moi, j'ai tellement de cas en tête où aujourd'hui, les réseaux sont assez récents. Vous me direz, un jeune qui a 20 ans aujourd'hui, il est né là-dedans, mais vous et moi, non.
Bien sûr.
Et donc, la puissance de cette parole, alors, qui soi-disant n'est contrôlée par personne, on va penser ça, mais qui est incontrôlable déjà, mais qui peut être d'une extrême violence. Vous parlez d'intelligence artificielle, très intéressant. Est-ce que vous savez que, par exemple, quand on s'exprime sur les réseaux, on est d'ailleurs beaucoup plus violent, parce qu'on est sous couvert d'anonymat. Donc on dit des choses, on réagit, etc. Mm-hmm. Enfin, ça réagit avec une sorte de force, etc. Est-ce que vous savez que une certaine intelligence artificielle qui était liée au réseau, justement, ont pris des positions extrémistes immenses, nazis, etc. Parce que, justement, comme l'intelligence était nourrie par les avis qui étaient sur les réseaux, elle devenait elle-même extrémiste, dans un sens ou dans l'autre, avec des choses inadmissibles. Donc, vous voyez ce qui se passe, voilà. Donc, aujourd'hui, faire la part des choses dans une réalité, sauf que derrière, alors on pourrait s'en moquer, il y a la vie des hommes et des femmes. Voyez. Alors, on réagit, je suis pour, je suis contre, un tel est un saint, un tel est un diable, mais dans tellement de sujets. Dans tellement de sujets. Donc, nous, ça interroge beaucoup le chrétien et le pasteur, le prêtre et l'évêque que je suis, non seulement à titre personnel et intellectuel, mais aussi comme pasteur d'une église, d'une communauté de frères et de sœurs. Quelle est la part de cette réalité virtuelle, de ces avis à l'emporte-pièce? J'avais déjà fait un article sur les coups de gueule et les coups de cœur, dans un sens et dans l'autre. Et à chaque fois, je dis bien dans tous les problèmes qu'il y a, toujours dans un sens et dans l'autre, hein, mais la réalité est toujours simplifiée.
C'est ça, on s'aperçoit que ce que les anglo-saxons appellent le narratif ou le récit, la manière de rapporter l'histoire, l'emporte sur la réalité même, qui finalement finit par être complètement oubliée. Et c'est la dimension du récit, de la représentation qui va prendre toute la place, et donc tout est faussé.
Tout est faussé. Tout est faussé, et donc, alors, pour les serviteurs de quelqu'un qui a dit « je suis la vérité », c'est grave.
Ah, oui, bien sûr.
Alors, certains, je n'en doute pas un instant, certains se délectent de cette ambiance floue. Il y a un flou, il y a un loup. Certains se délectent de créer de façon virtuelle et factice une vérité qui n'en est pas une. Et certains se débrouillent très très bien pour le faire. Moi, j'avoue sincèrement, frères et sœurs, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire, parce que je ne dois pas faire d'abord, mais je ne sais pas faire une réalité qui serait fabriquée de briques et de brocs. Je peux me forcer à ne pas réagir à une réalité quand elle n'est pas, comment dirais-je, fondée.
C'est ça.
Voilà. Et je peux prendre du recul, ce qu'on appelait avant l'esprit critique. Voilà. Je peux avoir un esprit critique, notamment par rapport aux médias, aux journaux. Je me rappelle une fois, il y avait un film sur Mozart, assez célèbre, s'appelle Amadeus, hein, tout le monde l'a vu.
Oui, tout à fait, magnifique.
Bon, mais ce film est un roman sur Mozart. C'est pas exactement la vie de Mozart. Un reportage, c'est un roman, c'est une certaine façon d'interpréter le personnage, de créer même le personnage.
Bien sûr.
Mais je m'appelle quelqu'un qui me disait « Ah bon, je ne savais pas que Mozart était comme ça. Hein. » Je dis « Mais il n'est pas comme ça, c'est un film. » « Ah non, mais dans le film, il est comme ça, donc c'est qu'il était comme ça. » Je dis « Mais non, mais c'est un film qui a inventé un personnage à partir d'éléments historiques, etc. Et encore, voilà. » Et donc, il se recule par rapport aux médias, par rapport déjà aux films, même films, puis par rapport aux médias, à ce que disent les journaux, à ce que disent maintenant les réseaux. Bien, il y a là un signe à la fois des derniers temps. Hein, y a un signe des derniers temps. Moi, je suis à la fois. Je vois ce qui s'est passé. Combien de fois ici à ce micro, Michel, nous avons parlé, par exemple, des propos du pape.
Tout à fait.
Nous avons voilà, il y avait la polémique sur le pape qui aurait dit permis le mariage homosexuel, alors que le texte qui était sorti disait exactement l'inverse. Enfin, mais donnait une certaine ouverture aussi, faut le reconnaître, etc. Et tant mieux. Eh bien, tout de suite, personne aujourd'hui vous interrogez. Mais il y a eu la même chose, c'était en 2010, à propos du pape Benoît XVI.
Bien sûr, le discours à Ratisbonne avec
le discours à Ratisbonne du pape Benoît XVI.
Un dialogue entre l'empereur et puis...
Un dialogue, il avait fait une citation le lendemain de son discours. Ouais. Alors, je ne sais pas si les auditeurs se souviennent, le lendemain du discours, le pape reçoit un remerciement du roi d'Arabie Saoudite, ouais, qui le remercie pour son discours. Parce qu'il avait cité l'islam comme un modèle d'une religion et qui avance avec la culture, etc., dans certains cas. Et en même temps, il avait fait une contre-citation d'un roi, je ne sais pas qui, d'un penseur, qui disait que l'islam, qu'il y avait une opposition, et que l'islam n'avait produit que de la guerre, etc. Bon. Eh bien, quelqu'un a pris uniquement cette citation.
C'est ça.
Et l'a mise à côté, et ça a fait des morts. Hein.
Bien sûr.
Ça fait des morts, vous voyez. Et donc, on n'arrête pas d'être dans... Et nous avons peu de recul. Et malgré tous ces exemples-là, je vois que le peuple, et parfois les prêtres, parfois des gens très, très... continuent à réagir de façon primitive et primaire. À ce... Et ils ont, de fait, parce que c'est puissant, ce sont des médias, mais puissants, qui ont un vrai impact dans nos vies et sur nos cœurs. Et donc ça va. Ben, écoutez, il y aura une ligne de démarcation désormais dans l'Église qui sera de plus en plus forte. Avant, c'était par rapport à l'argent, par rapport à l'alcool, par rapport au sexe, par rapport, par rapport à la toujours aux sept péchés capitaux. D'ailleurs, il y aura aujourd'hui une ligne de démarcation entre ceux qui vont suivre sans réfléchir, dans un sens ou dans l'autre, les modes. Les médias, et puis ceux qui vont prendre du recul, savoir faire silence. Et j'avoue que, contrairement aux apparences, j'ai de plus en plus envie d'être de la deuxième catégorie, parce qu'il s'agit de mon âme et de l'âme de mes frères. Ça peut être amusant de surfer sur les réseaux, de surfer...
D'alimenter la polémique.
Oui, voilà. Ouais. Et puis soi-même aussi, de dire...
Oui, de s'engager,
se lâcher. L'impression d'être... Se lâcher, exactement. Mmh. Se lâcher, mais du coup, on n'a plus des minutes de cerveau disponible. Notre cerveau est envahi par... En fait, il y a une manipulation. Est-ce qu'il y a des manipulateurs derrière? Je n'en suis pas là. Mais je sais qu'on peut, nous, se laisser manipuler. Donc, c'est très intéressant. C'est passionnant, tout ce qui se passe. Je ne parle pas de nos
problèmes
locales.
Mais vos activités aussi, de traiter ces problèmes, ça vous force à prendre du recul et puis à avoir une attitude...
Oui, parce qu'on arrive à la dixième année de notre... de mon épiscopat.
2025 bientôt, qui se profite.
C'est ça. Ça va faire 10 ans... des choses ont été faites, on a avancé, on a dit des choses, on a affirmé des choses. Ceux qui doivent entendre ont entendu, comme à la Pentecôte. Ceux qui ne veulent pas entendre n'entendent pas. Je n'y peux vraiment rien. Les choses sont dites. Les orientations sont prises dans l'Église comme à l'extérieur de l'Église. J'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est qui a compris, qui est appelé, nous suivra. On fait de notre mieux, mais les choses appartiennent. Et donc moi je suis dans une vraie période, j'encourage les chrétiens, dans une période de recul et de réflexion dans un monde qui n'est pas à la gloire de Dieu.
Monseigneur, merci. Alors rappelons qu'il y avait plusieurs réunions qui étaient prévues, qui ont été annulées pour vous, parce que les problèmes de l'eau ne se posent pas simplement dans les communes du Sud, mais aussi ici à Fort-de-France, et ça a des impacts sur un certain nombre d'agendas.
Oui, ça. On va dire ça comme ça.
Voilà. Et donc là, cet après-midi, par contre, vous allez bien confirmer les jeunes du Nord-Caraïbe.
Par contre, je voulais revenir. Dans l'actualité, il y a quand même ce beau rassemblement du renouveau. On en a un petit peu parlé, je crois.
Oui, on en a déjà
parlé. Les 50 ans, qui est un grand moment. Merci Seigneur pour tout ce qui a été fait. On a parlé du 22 mai, on a parlé des rencontres. Enfin, on n'arrête pas. Hein. C'est une communauté qui n'arrête pas.
Pleine de vie.
Pleine de vie. Alors évidemment, ça ne fait pas la une des journaux et des médias, mais c'est incroyable. Incroyable la vie de cette église.
Monseigneur,
on n'a pas beaucoup parlé non plus de mon dernier livre qui est sorti, mais on en reparlera.
On en reparlera, et nous en avons parlé avant qu'il soit arrivé. Il est maintenant disponible à la Procure, à l'Immaculée Conception et chez Cultura. D'accord. Aimons nos prêtres aux éditions Première Partie. Monseigneur, je vous propose de terminer par l'évangile, très court mais en même temps riche d'enseignements. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Monseigneur, tout est dit.
Bah, c'est le fameux dimanche de la Sainte Trinité. Oui. Et donc, du coup, comment dire, c'est un peu difficile parce que ce n'est pas une histoire qu'on raconte. Noël, c'est l'histoire de la naissance. Pâques, c'est la naissance, l'histoire de la résurrection, en fait, de notre salut. Pentecôte, c'est l'histoire. Il y a un événement. On peut faire un film de tout cela, mais la Sainte Trinité, c'est un petit peu plus difficile. C'est un discours, c'est un baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On peut dire déjà que contrairement à ce que disent certains de nos frères non chrétiens, comme les témoins de Jéhovah, le Fils et l'Esprit Saint n'étaient pas Dieu, on ne baptiserait pas les gens au nom du Père, et du Fils et de l'Esprit Saint.
Tout à fait.
Voilà. Donc il y a un seul Dieu, mais en trois personnes. À la fois, c'est difficile à expliquer. Ce n'est pas difficile, c'est impossible. Il ne faut pas l'expliquer. Il faut l'accueillir. Parce que c'est le plus grand mystère qui puisse exister, j'ai failli dire, en ce monde, en soi, de façon absolue. Déjà, chaque être humain est un mystère dans son passé, chaque culture. On parlait évidemment que le 22 mai de notre culture antillaise, de notre chair, de notre vie, de nos relations, c'est compliqué. C'est un mystère qui s'accueille plus qu'on le cherche à comprendre. Ou plutôt, si on cherche à le comprendre, il faut admettre au départ qu'on n'aura jamais fini de le comprendre. Et donc, c'est le mystère, finalement, de notre relation, de notre religion, de notre adoration à Dieu. D'accueillir Dieu tel qu'il se présente à moi, tel qu'il vient dans ma vie. Hein, mon Père et moi, nous ferons en lui notre demeure. L'Esprit Saint sera en vous. Nous accueillons tout simplement le don de Dieu, ce qu'il a fait pour nous, et puis nous accueillons cette mission. Là aussi, une vraie question est posée à notre Église. Est-ce que nous avons une Église de frères et sœurs qui, en grande majorité, si possible, ont fait une vraie rencontre avec le Seigneur, ont rencontré Dieu, qui parle à leur cœur? Ou bien est-ce que l'Église, c'est une association sympathique ou plus ou moins, un service public du religieux pour avoir un baptême de temps en temps, etc. Ou bien est-ce que c'est une rencontre avec le Christ? Et je crois que les temps qui viennent sont des temps où nous serons condamnés, si j'ose dire, à avoir fait cette rencontre avec le Père, le Fils et avec l'Esprit Saint. Donc être profondément baptisé, c'est-à-dire plongé en Dieu, dans toutes les dimensions de notre vie. Ça va de la vie professionnelle à la vie relationnelle, à la vie de prière, à la vie sexuelle, à la vie de foi au sens pieuse, à la vie de sportive, enfin, toutes les dimensions de notre vie imprégnées de l'amour de Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche Amen. À tous.
Merci Monseigneur, bonne fête de la Sainte Trinité, bonne fête à la paroisse de la Trinité justement.
Oui, tout à fait, et à son curé, le Père Albert.